C'est inhumain de nous faire déplacer une heure pareille. Mais bon, c'est inhumain, d'autant que j'ai eu quelques difficultés à préparer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi peut-être tout à l'heure. En tout cas, mes chers camarades, je m'adresse à vous non sans une certaine émotion. C'est en effet la seconde fois que la possibilité de m'exprimer au cours d'une réunion organisée par notre parti m'est offerte, la première ayant eu lieu à l'école du parti non loin de Ris-Orangis, dans l'Essonne, il y a déjà un certain temps. J'avais alors expliqué et témoigné du long combat qu'il avait fallu mener pour qu'enfin le Parti communiste français reconnût la liberté d'aimer et cessât de considérer l'amour entre individus du même sexe comme une dépravation et une maladie. Camarade, ne mets pas l'amour en prison, tel était le vers extrait de l'Ode pour Athée, l'avenue du printemps, qui s'affichait à la une de la Nouvelle Critique. Nous revenons de loin, aurait pu dire le camarade Aragon aujourd'hui. On me dit quelquefois, ah, vous êtes encore membre du PCF. La surprise attristée de mes interlocuteurs dispute à l'ironie à peine déguisée. Et j'ai, je l'avoue, quelque malin plaisir à leur apprendre que voilà bientôt 45 ans que je n'ai pas rendu ma carte. Aujourd'hui, donc, me voici devant vous. À ce moment de la vie où l'on se retourne, presque malgré soi, pour regarder le chemin parcouru et sans doute mesurer celui qu'il reste à faire. Et le peu qu'on a fait, le goût amer des échecs soudain dans la bouche, le chant des sirènes encore dans les oreilles, auquel on n'aura que trop souvent cédé, les illusions dont on aura fait le lit, pour mieux y dormir. Rassurez-vous, je n'éprouve pas le sentiment d'appartenir à une espèce en voie de disparition. Je considère même de cœur et de raison que le communisme est l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'homme, dans la justice et la dignité. Je sais bien que de telles formules paraissent pour certains d'un autre siècle. Il est vrai que je suis né au milieu du XXe siècle, ou peu s'en faut, au pli du crime. En effet, je suis né au pli du crime, en cette année terrible 1943, où la France était à genoux, semblait-il, devant l'occupant nazi. Je me suis risqué, dans mon dernier livre paru il y a quelques mois, œuvre posthume tome 2, à donner dans une première partie du livre une biographie portative de l'auteur. Jusqu'où pouvais-je remonter le cours du temps, vaincre l'oubli? Quels souvenirs avais-je gardé de mon enfance, comme imprimés en négatif sur une pellicule photographique et dont le travail d'écriture pouvait seul restituer les images, la trace? Mais le travail d'écriture est travail de mémoire, et comme tel il déplace, recompose, efface des formes sublimes. Je n'avais pas été sans remarquer dans un grand nombre de mes textes la survenue, l'irruption totalement incontrôlée d'épisodes de l'enfance jusque-là enfouis sans doute dans l'inconscient. Ainsi, je tentais dans cette biographie portative de détricoter, si vous me permettez l'expression, mes textes précédents, de les déconstruire, si vous préférez, pour reprendre une notion de la philosophie de Jacques Derrida, bien galvaudée par nos contemporains. J'entrais donc, pour filer la métaphore, dans la chambre noire, pour y développer les négatifs, mais je compris très vite que les souvenirs, disons, les images brutes, ou que je considérais comme telles au moment où je croyais les retrouver dans ma mémoire, étaient déjà recomposés de la fiction. J'interrogeais mes parents, par exemple, sur certains de mes souvenirs, et leur réaction me parut intéressante. D'une part, tel personnage, tel membre de la famille, ne portait pas alors, comme je le croyais, ce vêtement de laine bleue, ou kaki, par exemple. tel événement ne se déroulait pas comme je l'avais décrit, etc. Leur mémoire pouvait être défaillante. Je ne fis aucun commentaire. Mais leur réticence à répondre à mes questions me fit comprendre que l'expérience que j'avais espéré faire avec eux n'était pas possible et se heurtait à ce qui leur paraissait, je crois, un secret de famille, étrangement. Je suis né comme vous, donc, comme je viens de le dire, au pli du crime. Il y a toujours, dans la maison du père, une chambre secrète, comme celle de Barbe Bleue. Mais la porte ouverte, il n'y a rien, sinon un miroir déformant. Une de mes lectrices, commentant cette biographie portative, m'a parlé de son caractère désuet. Et certes, la France que je décris là, la France du centre, Berry-Sologne, la France de mon enfance, a gardé encore, à certains égards, une organisation sociale héritée du XIXe siècle. Dans mon village natal, il y avait un château délabré, habité par un aristocrate fantasque, monsieur le comte de Montbel de Cheliac. Ses filles se promenaient encore dans le parc, entourées de hauts murs l'été, avec de petites ombrelles pour les protéger des ardeurs du jour. L'église était, comme il se doit, attenante au château, et dans la nef latérale, les châtelains avaient leur banc réservé. Le comte, à une certaine époque, faisait le tour du village et s'arrêtait parfois devant la maison de ma grand-mère pour échanger quelques mots. Mais il restait sur le pas de la porte. Ma grand-mère était une simple lavandière. J'ai évoqué cet épisode dans la série « Lire le pays dans l'humanité d'autrefois ». Je vous raconte tout ça pour en venir à, avant de passer à autre chose, pour en venir à un souvenir d'enfance important pour moi, qui est celle des défilés des communistes dans mon village natal, Argent-sur-Saulle, dans le Cher. L'image qui m'en est restée, assez floue malgré tout, et en même temps précise, est celle des drapeaux rouges, des bannières ornées, des femmes qui, la directrice de l'école des filles, par exemple, de ces femmes qui se promenaient dans les rues du village, et les gens qui rentraient précipitamment chez eux, affolés, ce sont les communistes. Donc on se signait naturellement à leur passage. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais venir. Ensuite, je vous renvoie, si vous en avez le courage ou l'envie, au livre lui-même. Mais ça me paraissait un point important pour dire comment cet enfant que j'étais a gardé cette impression. Voilà, c'est ainsi que le mot communisme est venu à moi. Comme plus tard, et quelques années plus tard, sont venues à moi les guerres coloniales, et en particulier la guerre d'Indochine, ce que j'entendais sur le petit poste de radio qui était dans la cuisine de la maison de ma grand-mère, petit poste de radio qui était le luxe suprême à ce moment-là, où on écoutait les informations. Sans plus de précision possible à donner pour moi, j'ai encore dans l'oreille le récit de ces batailles en Indochine, comme on disait à l'époque. Voilà pour ces indications brèves. Voilà, sur le...
Après, je crois, Jean, si je ne m'abuse, que tu voulais enchaîner sur ton rapport avec le Parti communiste, puisque somme toute, tu rencontres Aragon en 1965, mais ce que tu viens de dire juste là indique que ton rapport au Parti n'est pas conditionné par la seule relation avec Aragon, et tu adhères au Parti en 1971. Et donc, depuis lors, près de 45 ans.
Oui. Évidemment, j'ai une vie avant de rencontrer Aragon. J'ai un long parcours. Quand je rencontre Aragon, j'ai 22 ans, mais malgré tout, j'ai déjà un long parcours et déjà un questionnement quant à la politique. L'adolescent que je suis alors lit Mauriac, il va lire plus tard l'Observateur, il va lire les bloc-notes. Et... Bref, il s'interroge. Pour vous dire tout de suite, la question s'est posée très vite, après mai 68. La question s'est posée très vite de mon adhésion au PCF. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler à cet instant, mon intervention. Vous avez remarqué que certaines parties sont écrites et d'autres ne le sont pas, parce que je me suis lancé dans un travail très ambitieux et que je compte bien continuer, mais que je n'ai pas pu avancer davantage. Donc j'essaie de coordonner tout ça et de donner un peu d'ordre à quelque chose qui est encore dispersé. Donc c'est un atelier de travail que j'expose devant vous. Je vous disais donc que mon émotion à prendre la parole devant vous aujourd'hui, mais je ne peux pas en même temps cacher l'embarras dans lequel je me trouve, à tel point qu'il pourrait me conduire à suspendre provisoirement mon discours, à me réfugier dans le silence, à la façon des lettrés de la Chine impériale, tant ce moment de l'histoire que nous traversons me paraît étouffant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me dis parfois que un tel pas de côté pourrait peut-être permettre d'y voir plus clair, de fourbir des armes, afin de mieux résister au nihilisme contemporain. Cette tentation de rester assis à son bureau, de cultiver son jardin, à l'abri du désordre du monde, pourquoi la terre? Chacun d'entre nous connaît des moments de lassitude, de découragement, d'où l'importance d'être ensemble pour avoir la force de continuer à avancer vers l'horizon qui nous est commun. D'où à mes yeux, encore aujourd'hui, la nécessité qu'existe un parti communiste français, même si je fais mienne l'interrogation sur le type d'organisation dont nous avons besoin au XXIe siècle, et je reprends cette formule à Alain Badiou. À cet embarras, j'ajouterai l'inquiétude. Il y a des années que j'entends les commentateurs autorisés, les experts, annoncer la disparition du Parti communiste français. Il est vrai que notre affaiblissement électoral, au fil des dernières décennies, n'est guère rassurant. Je n'ai pas la prétention d'analyser le phénomène, on s'en doute. C'est au parti dans son ensemble à le faire. Mais je voudrais souligner simplement quelques points qui me paraissent importants, étant entendu que ces réflexions sont fragmentaires, forcément rapides. Là comme ailleurs, la connaissance de l'histoire, de notre histoire, est essentielle. Que s'est-il donc passé, par exemple, entre, disons, la fin des années 60 et le début des années 80? Une formidable offensive idéologique menée par des groupes de réflexion, par exemple autour de la revue Esprit, dont Marcel Gauchet, Claude Lefort comptaient ou comptent parmi les principaux animateurs, avec les prétendus nouveaux philosophes dont le tristement fameux BHL. Cette offensive idéologique consiste à s'attaquer au PCF avec le concours des médias et du Parti socialiste, en rabattant la politique sur une question morale dont la défense des droits de l'homme sera la bannière. Communisme deviendra synonyme de crime, de tyrannie, de totalitarisme. Je vous renvoie à deux ouvrages importants sur ce sujet, l'un dont j'ai rendu longuement compte dans l'Aide française il y a quelques années, Les intellectuels contre la gauche, l'autre plus récent, dont j'ai également longuement rendu compte dans les lettres françaises, concerne le débat entre Alain Badiou et Marcel Gauchet. C'est un livre extrêmement utile et important qu'il faut lire. On voit par exemple que Marcel Gauchet, qui vient de famille modeste, n'a pas pour autant terminé sa vie dans le Parti communiste français. Bref, le moment de célébration du bicentenaire, toujours à cette époque de la Révolution française, verra le triomphe des thèses de François Furet et la honte d'un défilé organisé par Goethe sur les Champs-Élysées. Il s'agissait en fait de disqualifier l'historiographie de la Révolution française, dont les figures éminentes sont communistes, nous le savons. Robespierre et Saint-Just sont voués aux gémonies. Ces remarques sont encore d'actualité. N'attaque-t-on pas sans cesse le jacobinisme dont viendraient tous les problèmes de la France? Ainsi Michel Onfray peut-il, dans ses conférences à l'Université du Savoir de Caen, retransmise par France Culture deux fois par jour tout ce mois d'août, faire encore l'éloge des Girondins? Nous avons perdu, nous, communistes, cette bataille, me semble-t-il, dont je donne évidemment, vous l'avez compris là, à grands traits les moments importants. J'en veux pour preuve, et c'est pourquoi j'en parle devant vous, l'intériorisation, et voilà où je veux en venir, l'intériorisation chez beaucoup de communistes, et pendant longtemps, des thèmes de cette idéologie, aujourd'hui encore dominante. Je veux parler de la culpabilité par rapport au crime du stalinisme, qui s'est traduite un long temps par un abandon dans nos discours de certains mots comme capitalisme, lutte des classes, prolétaire, que sais-je encore. Et certains d'entre nous n'aiment guère toute allusion à Lénine, mais ne pas employer certains vocables n'est pas forcément en avoir fait l'analyse. Staline, oui, bien sûr, je n'irai pas boire le thé dans sa compagnie. Mais avez-vous remarqué que les mots stalinien, stalinien sont employés en dépit du bon sens? Un ami brillant intellectuel me traite de stalinien de temps à autre. Peut-être, mais en attendant, j'attends encore sa définition. Tout ceci a évidemment des conséquences, par exemple dans nos positions politiques internationales, par rapport à Cuba ou par rapport à la Chine, entre autres. Et plus généralement, sur la perception que les gens ont de notre identité. Qu'est-ce que pour eux le Parti communiste français aujourd'hui? Quels sont les repères auxquels ils peuvent se référer, se situer? Prenons une fois de plus un exemple. Notre journal L'Humanité, autrefois orné de la faucille et du marteau, portait en sous-titre « Organe central du PCF ». Aujourd'hui, il n'est plus que le journal fondé par Jean Jaurès. J'ai le plus grand respect pour Jean Jaurès, même si je vois bien les contradictions qui traversent sa vie et sa pensée. Mais enfin, je n'en fais pas une icône. Si on veut déboulonner la statue de Lénine, allons-y. Mais je n'ai pas envie qu'on la remplace à ce moment-là par une autre effigie. Vous me direz que Jaurès est plus consensuel que Lénine, certes. Et dans ce cas, pourquoi ne pas abandonner, comme d'autres partis européens, le nom communiste à ce compte-là? On voit d'ailleurs où ça les a menés, ces 10 partis communistes européens. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Que faisons-nous? Je sais que disant ça, je ne plairai pas à tout le monde, à l'humanité, mais enfin, c'est ce que je pense. Cela dit, les difficultés de la presse, réelles, graves, le lectorat réduit, je parle principalement des quotidiens, ces difficultés tiennent peut-être au fait que d'un journal à l'autre, on a l'impression de lire à peu près la même chose. Je fais malgré tout une petite exception pour l'humanité, de temps à autre. Alors je pense que s'afficher comme comme une libération de gauche, ce qui n'est pas difficile, ne suffit pas. De lire à peu près la même chose, donc, ou de lire ce qu'on a déjà entendu à la radio ou à la télévision. C'est-à-dire le discours de l'idéologie dominante. Je reviens à la bataille idéologique des années 70-80. Le PCF avait des revues et des journaux en assez grand nombre qui permettaient de mener le combat, d'intervenir dans le champ intellectuel et social à différents niveaux. Il y avait des maisons d'édition qui permettaient de mener la bataille du livre, pour reprendre l'expression d'Elsa Triolet. L'une des actions majeures du PCF dans toute son histoire aura été un formidable travail d'éducation populaire. Personnellement, Je ne dirai jamais assez ce que je dois au comité d'entreprise de la SNECMA, Melun-Ville-la-Roche, où mon père travaillait comme tourneur-fraiseur. J'avais chaque semaine à ma disposition les catalogues de livres et de disques où je pouvais choisir les classiques et les modernes parmi les modernes. Par exemple, pour ce qui concernait la musique, la Tourangelila Symphonie d'Olivier Messiaen. Élitaire pour tous, non ? Alors, maintenant il faudrait qu'on passe peut-être
aux lettres,
plus précisément, parce que quand j'ai rencontré Aragon, c'était en 1965, à l'occasion de la publication de mon premier livre, Le Lied de Nicolas Boileau et de Jules Verne. C'est à ce moment-là qu'Aragon m'a consacré la une des lettres françaises, une sélection des extraits de mon livre et un article donc de lui, comme j'ai dit, en une des lettres françaises, et une sélection des extraits de mon livre sur deux pages entières du journal. Puis, en 1971, il a refait la même chose pour mon second ouvrage, Du coup d'État en littérature, suivi d'exemples tirés de la Bible et des auteurs anciens. J'ai donc commencé à écrire dans les lettres françaises en 1965, mais auparavant, j'écrivais déjà dans d'autres journaux, Art, par exemple, dans mon souvenir. C'était une époque extrêmement riche, puisque en publications de toutes sortes, puisque à côté des lettres françaises, il y avait les hebdomadaires littéraires et artistiques, comme les nouvelles littéraires, comme Art et tant d'autres. J'ai, à partir de 1971, qui est une date importante pour moi, qui est évidemment la date de ma rencontre, la date de où j'entre véritablement dans la vie d'Aragon, au moment où je deviens son compagnon, jusqu'à sa mort. En 1971, j'ai dit à Aragon, écoute, c'était au mois de juin, je lui ai dit, écoute, je veux adhérer au PCF. Et il me dit, à ce moment-là, il était sûr, tu veux vraiment, etc. Et il insiste. Alors, je ne pourrais pas dire qu'Aragon m'aura véritablement encouragé. J'ajouterai que les discours qu'Aragon tenait sur le parti, sur certains éléments du parti français et du parti de l'Union soviétique, je vous assure, ne donnait pas forcément, si on n'avait pas un peu le cœur à l'ouvrage, ne donnait pas envie d'adhérer. Ah, je lui dis oui, voilà. Et il se trouve que je tombe malade à ce moment-là et que pendant un mois j'ai une convalescence et Aragon, donc devant ma détermination, vient me voir dans la petite ville de Bonlieu où j'habitais alors, vient me voir avec François Ecker, qui était un des dirigeants de la Nouvelle Critique, vient me voir et on m'apporte ma carte mon lit de souffrance. Voilà.
Peut-être dire un tout petit mot, parce que la Nouvelle Critique, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. La Nouvelle Critique était une revue du Parti communiste.
C'était le mensuel, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'était la grande revue intellectuelle du parti, comme nous avions à ce moment-là France Nouvelle, comme nous avons eu un peu plus tard Révolution. La Nouvelle Critique a joué un rôle important, justement dans les rapports entre le Parti communiste et les intellectuels et les écrivains français, en particulier avec l'avant-garde française de l'époque, la revue telle quelle, animée par Philippe Solers, et la revue Change, animée par Jean-Pierre Faye, etc. Il y avait donc une effervescence intellectuelle assez extraordinaire et de publications, à la fois de quotidiens, d'hebdomadaires et de revues, qui laisse un peu mélancolique si on veut, aujourd'hui. Donc, où en étais-je? Mais voilà, non, voilà, tu as bien fait. Voilà, fait. Où en étais-je? Je parlais donc. Pardon?
Voilà, un cœur. Voilà, prends-moi un cœur.
Prends-moi un cœur, porte la carte. Et à ce moment-là, on m'a fait que dans une cellule, qui est la cellule de la Rue d'Ulm, et je vous prie de croire que c'était du sérieux. Il y avait là Althusser et quelques autres, je crois qu'il y avait Balibar, il y avait un cœur, il y avait. Et je dois dire que je me trouvais terriblement impressionné, intimidé dans ces grandes figures de la pensée française. J'étais terrorisé, littéralement. Et j'ai demandé à ce moment-là à être muté. J'ai demandé ma mutation. J'ai toujours, on faisait à l'époque, le petit carton. L'autorisation de la mutation dans une cellule de ma ville de banlieue, hier, Essonne. Là, comme on dit dans les histoires, cette cellule ne va pas avoir une longue existence, puisque la Fédération de l'Essonne, le parti Essonne, a des problèmes à ce moment-là considérables, le détail importe peu aujourd'hui. Et la décision, la direction du parti tombe de scinder la cellule. Donc elle est divisée en deux. Ce qui veut dire que à ce moment-là, c'est pas trop où on est. En fait, je me retrouve complètement isolé. Et que faire? Bonne question, n'est-ce pas? Que faire? Et je demande au secrétariat général, au comité central, de me donner ma carte, ce qui a été fait. Voilà pour la petite histoire. Il est vrai qu'à l'école normale et à la Rue d'Ulm, à ce moment-là, régnait une ambiance difficile, et que ce qu'on a appelé le sectarisme d'un certain nombre de nos camarades à l'époque était rude, réel. Voilà. J'en suis. Alors, les lettres, je fais des détours. Les lettres. Donc, ma collaboration aux lettres deviendra de plus en plus importante au fur et à mesure que les années ont passé, depuis 65 jusqu'à 72, puisque Aragon et Pierre Dex me confient en fait les comptes rendus de tout ce qui concernait l'avant-garde française à ce moment-là. Et Aragon tenait essentiellement à ce que je parle de théâtre, et en particulier d'Antoine Vitesse. 72 est une date terrible, puisque le 1er juillet, je l'ai raconté déjà, mais je le redis devant vous, le 1er juillet 1972, je partais à Toulon avec Aragon, nous prenions toujours ce qui s'appelait à l'époque le train bleu, gare de Lyon. C'était un train très très agréable. Il y avait un wagon restaurant. Les tables étaient ornées de petites fleurs avec une nappe blanche. On vous apportait le menu, etc. Il y avait un bar, un grand bar où on pouvait consommer ce qu'on voulait et fumer si on en avait envie. Aragon me dit, quand nous nous installons à la table, il me dit, écoute petit, les lettres c'est fini. J'ai tout fait, je me suis battu, j'ai tout essayé, je savais déjà depuis des mois que le couperet allait tomber et qu'Aragon se battait, mais là il me dit, c'est terminé, j'ai demandé à Picasso de l'argent, j'ai exigé d'avoir quelques mois de plus de publication, et j'ai exigé que les camarades et les collaborateurs de l'aide française licenciés touchent les indemnités normales, y compris, et ça c'est tout Aragon, y compris, là je crois que je ne peux pas l'avoir écrit, y compris les camarades qui travaillaient à ce soir, et qu'on tienne compte de leur ancienneté et dans l'indemnité qu'on allait leur verser.
Ce soir qui était un journal communiste.
Ce soir a été un très grand journal et pour les voilà dont les tirages étaient considérables. Il y avait au fait deux grands journaux. Il y avait ce soir, il y avait Paris Soir et puis il y a eu ensuite France Soir. Voilà. Et nous avons eu ce grand quotidien longtemps. Voilà. Donc le choc pour Aragon a été terrible. Il me dit le on cessera de paraître en octobre. Je n'ai jamais accepté cette disparition. Et je voudrais vous dire que j'ai lu récemment dans une publication aragonienne par un chercheur qui s'appelle Luc Vigier une petite étude sur mon rapport aux lettres françaises. Ce qui m'a surpris, je l'ai lu avec un intérêt certain parce qu'il y parle du côté romanesque de mon histoire avec les lettres françaises et donc de mon histoire avec Aragon. Alors, tout ça est très lié. Ce qui est vrai, je n'y avais jamais réellement pensé. Cet article en même temps m'a montré qu'il y avait mal donne quand on parlait des lettres françaises et de l'action que j'y mène depuis tant d'années. Il y a mal donne parce que mon propos est en m'étant battu tout de suite après la fin des lettres françaises, en m'étant battu avec la direction du parti pour la réparation de ce journal, mon propos n'était pas un propos personnel et de satisfaction affective, intime, etc. Mon propos était un propos politique. L'existence de ce journal est justifiée parce que il a joué pendant longtemps, évidemment pendant la résistance, et ensuite il a joué un rôle considérable de rassemblement des intellectuels français et internationaux. Il a joué en même temps un rôle d'éducation populaire considérable. Nombre de lecteurs jusqu'en 72 ont appris sur la littérature, sur le cinéma, sur les arts, ont appris tout ce qu'ils devaient savoir. Par conséquent, l'abandon des lettres françaises en 72 me paraissait une catastrophe intellectuelle et politique. Et moi, c'est donc comme ça que j'ai fini par obtenir gain de cause grâce à un camarade de la Fédération du Val-de-Marne avec qui je parlais longuement de cette affaire. Un jour, à une réunion à la Fédé, Val-de-Marne, je lui tape sur l'épaule et je lui dis « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les lettres ?» Il me dit « On y va ». Et on y est allé, en effet, c'était en 89, là, il faudra vérifier les dates, 90, je ne sais plus. On y va comment ? Eh bien, on va se débrouiller. Et donc, on a trouvé un imprimeur dans le journal Liberté, dans le Nord. On imprimait le journal là-bas, bref, enfin, on s'est débrouillé comme on a pu, je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus. L'aventure, finalement, on s'est retrouvé en kiosque, et l'aventure durera trois ans. Trois ans de bataille, dont la plus grande a été marquée par la publication d'un numéro porno qui a fait un petit scandale tout de même parce que François a la une titre Aragon réveille-toi, ils sont devenus porno. L'article était plutôt sympathique, mais exemplaire numéro qui passe mal auprès d'un certain nombre de camarades, y compris de la direction. Il y a toujours eu une certaine pudibonderie dans nos rangs et je vous renvoie au démêlé d'une dame que je n'aime pas beaucoup, mais enfin, par exemple, de Madame Duras, qui est exclue du parti parce qu'elle a un ménage, et à ce moment-là, elle a un ménage à trois. Je vous renvoie à l'exclusion d'un grand philosophe à cause de son homosexualité, etc.
Scherer,
merci, etc. Donc, il y avait en même temps quelque chose qui choquait beaucoup. Il y avait 64 pages dans ce magazine à l'époque, hein, les lettres. On est passé d'un format papier traditionnel, 10, 20 pages, etc., à un format magazine à la fin. Mais sur les 64 pages, il y avait 4 pages réservées aux recherches sur ce que j'appelais les sexualités plurielles. Donc, c'était. Considérant qu'on avait supprimé un journal, le gay à ce moment-là, j'avais repris une petite partie de l'équipe du gay pied et j'avais organisé à l'intérieur du journal des pages, une chronique appelée le contre-pied qui traitait de ces sexualités plurielles. Ça n'a pas passé du tout, à tel point que l'argent pour financer le journal, l'argent ne venait plus, et qu'au bout de quelques mois, je me suis trouvé dans une situation financière dramatique et que j'ai été obligé de déposer le bilan. Le camarade qui est venu m'annoncer et m'avouer la fin de ces lettres françaises-là m'a invité, comme on m'invite souvent dans notre partie quand on veut m'annoncer une mauvaise nouvelle, et uniquement concernant les lettres françaises, on m'invite quelquefois, souvent, enfin, au restaurant. Enfin, on se dit, la pilule passera mieux. Et ce camarade me dit, tu as d'abord été un militant gay dans ces lettres, avant d'être un militant communiste. Je lui dis, comment peux-tu oser me dire ça? Nous étions à la coupole, on a fait les choses pas mal. Il me dit, si tu continues, je me lève et je m'en vais. Je t'en prie, reste, nous allons finir le repas. C'est les Françaises donc j'ai déposé le bilan, ce qui m'a valu une interdiction de gérer dorénavant une quelconque association, entreprise, etc. Et le juge au tribunal m'a dit, écoutez, monsieur Ristin, écrivez la poésie, faites la littérature, ne gérez pas les entreprises. Parfois, je m'en suis sorti à peu près à bon compte. Je pensais que tout serait terminé, nous sommes en 90, puis un jour, en 2001, je crois, la direction de l'Humanité m'appelle et me demande de faire un numéro spécial d'anniversaire des lettres françaises, et puis peut-être de continuer pendant quelques numéros, et puis voilà, ça fait 12 ans que cela dure. Ça fait 12 ans également de bataille. Alors, ne croyez pas que ce soit simple. Pour ceux qui me lisent ou qui lisent les lettres françaises, sans autre, ils peuvent comprendre. Nous avions 16 pages insérées dans l'Humanité, puis à cause du coût du papier, nous sommes passés à 12 pages, puis ensuite, à cause du poids de l'Humanité, quand il y avait 12 pages de plus, à cause du poids, donc l'augmentation des frais postaux, une fois par mois, on m'a dit que voilà, le coût du papier, les frais postaux, tout ça. Il fallait donc envisager une publication sur un site internet. J'ai résisté pied à pied pendant des années, puis à un moment donné, j'ai été mis à genoux. Il a bien fallu que je cède, et comme je voulais sauver le journal, coûte que coûte, en attendant les temps meilleurs, j'ai accepté à peu près les conditions qui m'étaient faites. Ces conditions, il y avait le coût du papier, il y avait mais il y avait aussi cette remarque que les lettres étaient trop élitaires, par conséquent touchaient un public restreint qui ne pouvait pas être le public des lecteurs de l'Humanité, à quoi je me suis violemment insurgés. Car même si certains articles d'un texte sont difficiles, les camarades et les lecteurs de l'Humanité ne sont même pas des ignares. Et d'autre part, c'est oublier une chose qui est une des choses qui me touchent le plus quand je rencontre, m'arrive de rencontrer les militants de notre parti. Et je me souviens qu'à un festival à l'ODEV, il y a quelques années, un camarade passe et nous arrête, Franck Delorieux et moi, dans les allées. Et il dit, l'élève, bravo, c'est formidable. J'ai du mal à les lire, j'y arrive pas. Mais je suis fier que notre parti fasse ça. Et c'est quelque chose qui m'émeut infiniment, croyez-le. Et alors j'ai répété ça évidemment aux camarades de la direction du parti, qui en sourit. Alors, je vous raconte ça pour que vous connaissiez ces difficultés et pour que vous mesuriez, et je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de l'identité du parti, qui sommes-nous, que faisons-nous, etc., souligner que cet ouvriérisme-là, car à certains égards, c'est de l'ouvriérisme, nous renvoie à une période de notre histoire extrêmement difficile et qu'il y a toujours eu dans l'histoire du mouvement socialiste et du mouvement communiste français, ce défaut, je vous renvoie à Marx, et Lénine, enfin, etc., je vous renvoie à ce défaut de l'ouvriérisme. Donc ça me paraît une question importante, je ne dis pas ça, vous comprenez pourquoi je pense que la question est une question politique. C'est pas Arista, il a son joujou, on l'aime bien, il fait des choses, et on lui offre les lettres françaises, et, bon... Et on lui fait confiance d'ailleurs d'une manière extraordinaire. Qui pourrait penser que j'ai une telle liberté et qu'on me fasse une telle confiance en même temps avec les lettres françaises? Mais il y a ce problème qui reste tout de même chez un certain nombre de nos camarades qui ont des pouvoirs. Ce problème de l'ouvriérisme reste soit latent, soit aujourd'hui manifeste.